Cette semaine, je lisais l'Épître aux Galates et un texte m'a particulièrement touché. C'est un texte qu'on connaît bien, qui nous parle de notre identité, en Christ, de notre unité, qui nous parle aussi de notre rapport à la loi. Et ces dernières semaines, j'ai été interrogé alors par certains dans l'Église sur le rapport à la loi, sur aussi les différences qui existent entre hommes et femmes dans l'Église. Et ce texte nous parle de ça et voilà, c'est comme toujours pour moi, la parole est une aide à réfléchir. Elle me permet de remettre en question ce que je crois. Elle m'aide à aller plus loin et je partage ça avec vous avec humilité, j'espère. Donc on va lire dans l'Épître aux Galates, on va lire au chapitre 3, du verset 23 au verset 29. Donc je vais le lire dans la traduction du Semeur. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Paul écrit ce passage donc dans le contexte de sa lettre aux Galates. Et le contexte, c'est que des judaïsants sont venus dans l'église et prêchent la circoncision. Ils prêchent la circoncision pour les chrétiens. Et Paul nous dit que s'ils prêchent ça, c'est d'abord pour échapper à la persécution, pour être accepté dans la communauté juive et ne plus être soumis à l'oppression, au rejet. Eh bien, ils disent, tous doivent être circoncis et donc respecter la loi telle qu'elle a été donnée par Moïse. Et donc Paul, dans tout cet épître, va rappeler que le salut ne se trouve pas dans la loi, mais se trouve dans la foi en Christ. C'est ça qu'il est en train de démontrer tout au long de cette épître. Et donc dans ce texte, Paul nous dit que nous sommes libres, nous avons été libérés du gardien de la loi, puisque nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais nous sommes sous le régime de la foi. Et cette loi introduisait des différences entre différents groupes de personnes. Elle introduisait des différences entre ceux qui étaient du peuple élu et ceux qui ne l'étaient pas, entre les juifs et les non-juifs. Elle introduisait des différences entre les hommes et les femmes dans leur possibilité dans les règles d'accès auprès de Dieu, dans la façon dont ils pouvaient entrer dans le temple, dans ce qui était dans les différentes parties qui étaient accessibles aux uns et pas aux autres. des différences dans la purification. Toutes ces choses-là étaient différentes pour les différents groupes de personnes. Et Paul, ici, nous dit que ces différences disparaissent sous le régime de la foi. Elles disparaissent parce que nous sommes, le texte ici nous dit, revêtus du Christ. Par le symbole du baptême, de cette mort et de cette résurrection, ce que nous étions a été crucifié. Un peu plus loin, Paul va dire que le monde a été crucifié pour lui et lui a été crucifié pour le monde. Ce qu'il était a disparu et a été recouvert par le Christ, recouvert par l'identité du Christ, par ce que Christ lui a apporté. Et au chapitre 6, donc Paul va nous dire, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi je l'ai été pour le monde. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et pour cette nouvelle créature, eh bien, dans cette nouvelle création, il n'y a plus de différence. Plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Ceux qui étaient limités à la cour du temple, eh bien, maintenant peuvent accéder jusqu'au lieu très saint. Évidemment, ça parle, cette différence entre les juifs et les non-juifs parle particulièrement à Paul, probablement un peu moins à nous, mais elle révèle que ce qui était une différence fondamentale pour Paul, eh bien, devient secondaire. Ce qui était son identité devient quelque chose qui n'a plus de valeur. Cette différence entre les juifs et les non-juifs, on peut la transposer assez facilement. Alors évidemment, c'est une différence qui est d'abord religieuse, mais elle touche aussi à notre identité, à son identité sociale. Et de nos jours, on peut retrouver cette différence dans notre identité nationale, dans notre culture, même dans notre couleur de peau. Toutes ces choses qui peuvent être fondamentales dans nos vies, eh bien, deviennent sans signification, sans valeur. Dans notre unité avec le Christ, dans notre relation à Dieu, parce que nous soyons quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre culture, eh bien nous sommes tous réunis dans la présence de Dieu. Pas de différence entre esclave et homme libre. Cette différence entre esclave et homme libre, évidemment, elle a disparu de notre société, mais elle représentait une barrière sociale très très forte. À l'époque des Romains, les esclaves étaient encore des hommes, contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, pendant l'esclavage des Noirs pendant au XVIe et XVIIe avec le Code Noir, par exemple, où les esclaves devenaient des biens, des meubles. Chez les Romains, les esclaves étaient encore des hommes, mais des hommes diminués, des hommes sans dignité. Des hommes sans dignité. Et les règles de relation avec ces esclaves étaient très, très codifiées, très restreintes. Et on sait que dans l'Église, cette question de l'esclavage a été quelque chose de qui a été compliqué à, compliqué à gérer. On retrouve ça dans, dans l'Épître à Philémon, par exemple. Et Paul va pas, d'ailleurs, n'a pas dit que les maîtres devaient libérer leur, leurs esclaves quand ils étaient chrétiens. Mais c'est, cette idée a continué à travailler l'Église, hein, et au fil des siècles, bon, on peut étudier comment, comment, comment l'Église, finalement, a petit à petit rejeté l'esclavage, en tout cas en Europe. Et évidemment, de, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, cette différence de statut social, on la retrouve dans nos sociétés, entre, simplement entre les riches et les pauvres. Entre ce qui est accessible à certains et pas à d'autres. Et là aussi, cette différence qui existe dans nos sociétés, eh bien, cette différence disparaît. Disparaît quand nous nous plaçons devant Dieu. Au passage, ces deux différences qui existaient à l'époque de Paul, hein, donc entre juifs et non-juifs, entre ceux qui avaient la bonne nationalité et ceux qui ne l'avaient pas, entre entre ceux qui étaient libres et ceux qui étaient pauvres, enfin libres et esclaves, entre ceux qui étaient riches ou pauvres, ces différences existent toujours, peut-être encore plus à notre époque que, qu'à l'époque de Paul. Encore des différences tellement énormes entre, entre ceux qui possèdent plus que la moitié, enfin, vous savez, hein, les 100 personnes les plus riches possèdent plus que la moitié de la population la plus pauvre. Il y a des différences tellement, tellement énormes dans nos sociétés entre celui qui naît au Darfour ou celui qui naît en Suisse, on voit bien que la nationalité a encore une importance tellement, tellement énorme. Toutes ces différences qui existaient à l'époque de Paul existent encore profondément encore aujourd'hui. Et ce texte nous rappelle que devant Dieu, ces différences-là s'estompent et disparaissent. La dernière différence que Paul efface, et une différence encore plus, on va dire encore plus fondamentale. Il nous dit, unis en Christ, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Alors là aussi, évidemment, il y a une différence sociale. Hein. À l'époque de Paul, ce que les hommes et les femmes pouvaient faire était très différent. Les mondes étaient se chevauchaient. Se chevauchait peu, les règles étaient très, très strictes et très fortes. Ces règles-là disparaissent de plus en plus dans nos sociétés, par contre. Évidemment, ça recouvre aussi une différence biologique. Fondamentalement, nos corps ne sont pas les mêmes. Et donc, cette différence de rôle social, cette différence fondamentale biologique qui fonde nos identités, eh bien, là aussi, sous le manteau du Christ, en étant recouvert par le Christ, cette différence s'estompe, et Jésus nous dit lui-même que dans le corps qui sera le nôtre, eh bien, cette différence aura disparu. Une fois qu'on a dit ça, on se rend aussi compte que toutes les différences qu'on a mentionnées, eh bien, ces différences persistent dans l'Église. Enfin, dans l'Église de Jérusalem, la différence entre les riches et les pauvres, par exemple, peut-être pas abolie, mais en tout cas diminuée, en fait, simplement par la mise en commun des biens. Cette façon de faire n'a pas duré. Il a fallu que les gens continuent à vivre et à avoir un travail pour vivre et faire vivre leur famille. Donc, ce mode de fonctionnement n'a pas continué. Donc, des riches et des pauvres, eh bien, il y en a dans les églises et dans une certaine mesure aussi dans la nôtre. Les différences entre les hommes et les femmes, là aussi, eh bien, ces différences existent dans notre Église et elles continuent. Ce matin, c'est moi qui vous parle. Et à ce poste-là, à cette fonction-là, il n'y a pas de femme dans notre Église. D'accord ? On a. Alors, évidemment, ces différences sont parfois justifiées. On trouve des raisons, des textes qui nous montrent que cette réalité spirituelle qui est déjà là n'est pas encore complètement réalisée. La promesse est déjà en cours d'accomplissement, mais elle n'est pas totalement accomplie. Le corps qui nous rendra tous semblables, eh bien, nous ne l'avons pas encore, et nous espérons et nous attendons ce retour de Christ et cette nouvelle création. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas non plus considérer que cette frontière entre ce monde spirituel déjà là et cette réalité physique, que la frontière entre ces deux-là est complètement imperméable. Ce texte nous dit ce que vous êtes fondamentalement, c'est que vous êtes tous un. Vous êtes tous un en Christ. C'est ça qui vous attend, c'est ça qui est votre identité future. Vous ne l'êtes pas encore complètement aujourd'hui. Malgré tout, ce vers quoi vous vous dirigez doit éclairer ce que vous êtes aujourd'hui. Et cette question-là a toujours remué l'Église. Dans son rapport aux riches et aux pauvres, dans son rapport aux esclaves et aux libres. Ça a toujours été quelque chose sur lequel l'Église a dû réfléchir et travailler. Et je pense que c'est une bonne chose. Et encore aujourd'hui, donc, ce texte nous dit que nous sommes libérés de la loi, libérés de cette logique qui dit que pour être sauvé, il faut faire, mais aussi de cette logique qui dit que notre chemin est encadré et tracé. Et ce texte nous montre que nous devons interroger la loi, interroger nos règles, interroger ce que nous trouvons normal. Interroger, par exemple, bien dans notre société, il y a des différences fortes entre ceux qui sont français, ceux qui ne sont pas français dans notre société. Pourtant, nous savons que nous sommes fondamentalement les mêmes. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette différence que je vois autour de moi? Comment est-ce que je réponds à ce que l'Esprit met en moi de cette réalité que Dieu me donne, que je suis uni à celui qui est en face de moi. La différence entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Qu'est-ce que je fais avec cette différence? Quand je vois en face de moi quelqu'un qui a moins que moi, mais je suis le même que lui. J'ai la même valeur, je suis sous le même manteau que lui. Je suis uni avec lui par le Christ. Qu'est-ce que je fais avec cette différence que je vois? Je suis un homme et je vois mes sœurs dans l'Église. Je vois ce qu'elles font, je vois ce qu'elles ne font pas, et je m'interroge. Et je me dis, alors, ok, on a mis certaines règles, on a réfléchi, c'est bien, je réfléchis. On a mis certains modes de fonctionnement, et pourtant, elle et moi, nous partageons la même identité en Christ. Alors, ce qui te paraît normal et habituel, Peut-être il faut le réinterroger. Pas forcément pour le changer. Je ne dis pas, bien sûr, que tout doit être, qu'on doit vivre comme si on était dans le, comme si on était déjà dans le royaume de Dieu. Mais malgré tout, ce texte-là, à mon avis, doit nous pousser à nous poser des questions, à demander au Seigneur de nous éclairer, parce que nous ne vivons plus sous le régime de la loi, mais nous vivons sous celui de la foi, sous celui de, comme on a parlé ce matin, on vit sous le régime de l'unité avec l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous guide, c'est lui qui nous montre ce que nous devons faire, et nous sommes libres. Nous sommes complètement libres de la loi. Et ce texte nous dit aussi que nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre sans Dieu, mais au contraire, cette liberté doit être mise en œuvre pour accomplir l'amour, pour accomplir ce commandement qui est d'aimer celui qui est en face de nous, notre prochain, et celui dont nous sommes le prochain. Et je vais terminer, j'espère que j'ai pas été trop long, je vais terminer en vous lisant donc toujours dans Galates, donc je vais lire au chapitre 6 à partir du verset 1. Quand je vous dis ce genre de choses, que nous devons réfléchir, que nous devons nous remettre en question, c'est parce que je crois vraiment que la parole de Dieu ne peut pas nous laisser dans un état confortable. Si nous avons l'impression que ce que nous entendons et qu'on est bien avec ça, que vraiment on est à l'aise, que c'est complètement normal, alors c'est que peut-être qu'on a un souci, parce que je pense que la parole de Dieu, fondamentalement, elle nous remue, elle nous secoue, et elle nous dit qu'on peut pas rester en place. La parole de Dieu, elle nous pousse en avant. Et moi qui me tiens devant vous ce matin, je le dis pas comme étant celui qui a trouvé la vérité pour moi. Je suis en marche et j'espère marcher avec vous. Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention à ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'en est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même, et non par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Nous sommes unis en Christ. Pourtant, nous ne sommes pas uniques. Nous ne sommes pas identiques les uns aux autres. Et chacun de nous a à répondre à ce que l'Esprit met dans son cœur, à ce que l'Esprit lui dit, aux situations face auxquelles il doit répondre. Et ce texte nous rappelle que bien d'abord que l'Esprit est avec nous, et que chacun d'entre nous sommes libres, et que donc nous sommes responsables. Merci.